podcasts de Radio Vatican.
Il y a 4 ans, le pape François effectuait son premier voyage à l'étranger, à l'occasion des JMJ de Rio de Janeiro, au Brésil. Depuis, il s'est rendu par 4 fois sur son continent natal et 2 autres déplacements y sont prévus. En septembre, le pape encouragera la paix signée par les FARC en Colombie. En janvier, il se rendra au Pérou et au Chili. Plus au nord, François a rencontré le patriarche orthodoxe russe à l'aéroport de la Havane, rejoignant après Cuba les États-Unis, 2 pays qu'il a aidé à se rapprocher après 50 ans de gel diplomatique. À la frontière mexicaine, François a prié pour les migrants, des hommes et des femmes, dont il a défendu les droits en Europe, à Lampedusa ou Lesbos. Depuis son élection sur le trône de pierre, François a visité 4 continents. Il s'est recueilli avec le patriarche de Constantinople au Saint-Sépulcre. Il a prié avec les luthériens en Suède, réveillé l'Europe à Strasbourg. Le pape a bravé la tempête pour rencontrer des Philippins meurtris par les catastrophes naturelles. En Asie, il a également encouragé les catholiques coréens ou sri-lankais éprouvés par des guerres intestines. Avec courage, il a décidé de maintenir son déplacement en Centrafrique pour y ouvrir la première porte sainte de la miséricorde. À quelle stratégie répondent ces voyages? Michel Roy est le secrétaire général de Caritas Internationalis.
Il va aller sur des lieux de fracture, dans des périphéries. On se souvient du premier voyage à Lampedusa pour attirer l'attention sur ce flux de migrants qui n'a cessé de croître depuis d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment entendu son appel. C'est un des dossiers chauds et importants que celui des migrations et des réfugiés des Nations Unies l'année prochaine adopteront des pactes mondiaux sur sur les migrations, un sur les réfugiés, et tout le travail se fait actuellement et le pape y participe à sa manière, il participera. Il est allé au Mexique pour aller sur la frontière avec les États-Unis pour montrer que cette question migratoire devait être traitée avec dignité, que les migrants sont avant tout des personnes et pas des objets que l'on rejette. Donc voilà. D'une manière plus générale, il va aller sur des lignes de fracture pour attirer l'attention, là où le monde semble dériver vers des attitudes qui sont finalement peu éthiques et peu morales, et aussi pour encourager les initiatives qui peuvent être prises, comme ce processus de paix en Colombie. Le Saint-Père est aussi allé aux Nations Unies, a parlé à l'Assemblée Générale au moment où les objectifs du millénaire pour le développement étaient adoptés, donc je pense que la stratégie vise à être là où il faut, quand il faut.
Mobilisation donc pour la paix, que ce soit en Colombie, mais aussi on pense à la RCA par exemple, et mobilisation pour les migrants, un sujet qui lui tient vraiment à cœur, des hommes qu'il a défendus tant à la tribune des Nations Unies que devant les élus du Congrès lors d'un subtil rappel à l'ordre.
Oui, je crois que c'est la voix, et je dis là, il y en a d'autres sans doute, mais le Saint-Père, c'est aujourd'hui la voix morale. La voix éthique qui est écoutée partout sur la planète. J'ai des collègues musulmans responsables d'ONG musulmanes qui m'ont déjà dit que le pape est la voix qu'ils écoutent aujourd'hui et leur leader spirituel même. Donc ça va assez loin. C'est pour dire l'importance de la voix du Saint-Père qui est vraiment écoutée. On sait que l'encyclique Laudato aussi a permis d'obtenir un accord de Paris sur le climat qui n'aurait pas été aussi fort si le Saint-Père et la délégation du Saint-Siège après n'avaient pas fait ce travail. Donc le Saint-Père est considéré sur la planète par beaucoup et aussi par, je pense, des chefs d'État, des chefs de gouvernement comme un leader qui montre le chemin. Maintenant, on s'aperçoit que le monde ne va pas forcément dans le bon sens et voilà, c'est peut-être une voix qui crie dans le désert à un certain niveau, et c'est une voix qui est quand même très importante et qui est porteur d'espérance.
Vous avez évoqué l'impact que le pape a sur certains musulmans. Le dialogue, c'est aussi une des récurrences de ses voyages avec les chrétiens, bien sûr, en Turquie, en Suède, mais aussi avec les musulmans, comme lors de sa visite à Al-Azhar en Égypte.
Le dialogue pour reconstruire une société qui soit plus fraternelle et qui soit plus juste. Je crois que le monde d'aujourd'hui a dérivé très fort avec la mondialisation telle qu'on la connaît, vers le matérialisme comme valeur première, où l'on oublie l'essentiel qui est caché et dont on n'a pas besoin. De dialoguer et de s'allier avec les autres leaders religieux, ça permet de rappeler l'essentiel à tout le monde sur la planète. Donc le pape, comme on le disait tout à l'heure, déjà est une voix qui est forte et qui est reconnue, qui est écoutée, mais de le faire avec d'autres est encore plus fort pour rappeler que la personne humaine doit être au centre du développement. Et le dialogue pour arriver à la paix aussi, enfin, du fait qu'un certain nombre de conflits sont menés par des personnes qui se réfèrent à Dieu, et qui dévoie la religion de sa réalité première, il est important de dire avec les autres, en particulier avec les leaders musulmans, qu'ils soient chiites ou qu'ils soient sunnites, que la foi en Dieu doit conduire à la paix, et source de paix et non pas source de conflit.
Il me semble aussi qu'il faut noter combien le pape est volontariste. Il veut aller dans certains endroits et aussi courageux quand il va, par exemple, avec son kawé jaune braver un ouragan à Tacloban aux Philippines, ou encore qu'il se rend dans la capitale de RCA à Bangui et en particulier dans le quartier du PK5.
Oui, il n'a pas peur. Les services de sécurité des pays où il va, et en Centrafrique, il y avait aussi les services de sécurité français qui étaient présents et qui avaient complètement déconseillé au pape de venir, même de poser le pied en Centrafrique, sans parler d'aller dans des quartiers comme le PK5. Il est clair, il sait que sa mission est d'aller au-devant, est d'aller au-delà, et d'aller retrouver les personnes. Ce sont là aussi des formes de périphérie, et il y va. Et les responsables de sa sécurité au Saint-Siège ont intégré cet élément-là et ne le découragent pas de faire ce pas parce qu'ils savent que c'est sa mission. Donc oui, mais vous voyez, il n'y a pas eu d'attentat contre lui. Sa présence à Bangui dans les quartiers difficiles a été au contraire source de démarches de réconciliation qui ont été reprises, accompagnées après par les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes de la ville. Donc, je crois qu'il montre le chemin. Il ne faut pas avoir peur. On a trop souvent peur, même nous, d'organiser des rencontres ou d'aller aller mettre les pieds en Syrie paraissait quelque chose d'impensable, trop dangereux. Mais je crois que quand on est allé, je suis allé aussi, les personnes qui vous accueillent sont regonflées dans leur espérance qu'un avenir meilleur est possible pour elles. Et puis, en réalité, il ne se passe rien, ou il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe. Évidemment, le Saint-Père est une personnalité unique, donc il pourrait être visé, mais je crois qu'il intègre ça. Mais ça ne l'empêche pas de faire les pas en avant quand il pense qu'ils doivent être faits.
On voit d'ailleurs qu'il canonise souvent, lors de ses déplacements, des hommes qui n'ont pas eu peur, des grands évangélisateurs comme Junipero Serra aux États-Unis et ou alors encore Joseph Vaz au Sri Lanka.
C'est souligné à l'occasion d'un voyage, et peut-être ça fait partie aussi de la raison du voyage, de mettre en valeur la vie et la manière dont certaines personnes ont mené à bien participer à la mission du Seigneur. Donc l'attention n'est pas attirée uniquement sur lui, sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il dit.
Peut-être juste parlons de là où le pape n'est pas encore allé. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé pas mal sur le continent européen. Il est allé en Grèce, en Suède voir les luthériens, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, ou encore plus récemment au Portugal. Alors évidemment, je me fais le porte-parole des fidèles français. Pourquoi pas la France, alors que c'est quand même un pays de fracture, là aussi, riche mais marqué par de fortes inégalités, démocrate mais touché par de fortes réflexes identitaires, ou encore frappé bien sûr par des actes de terrorisme. Bref, pourquoi pas la France?
Je ne sais pas. Je pense qu'il va aller en France. Nous n'en avons pas parlé. Je l'ai rencontré au mois de juin, mais ça n'était pas à l'ordre du jour. Mais je pense qu'il viendra en France. Ça n'a pas été et ça n'est sans doute pas une priorité, effectivement. Alors, on peut insister auprès de lui pour qu'il mette la France dans son agenda. Vous avez raison, il y a beaucoup de raisons qui pousseraient à ce qu'il vienne nous rendre visite aussi en France. Mais peut-être qu'une opportunité peut se dégager. Vous avez parlé tout à l'heure de la canonisation de saints. Quand il y a une opportunité particulière, alors ça donne la raison immédiate de décider de faire ce voyage. Et puis la France n'est pas loin, c'est sûr. Donc quand il se déplace dans un diocèse, puisqu'il va régulièrement dans des diocèses en Italie, il pourrait franchir la frontière pour aller de l'autre côté. On va l'encourager à le faire. Je crois que les Français, effectivement, attendent clairement ça.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.